La paix existe, il faut penser qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle n'est pas spontanée, que l'état de paix n'est pas naturel. Donc il demande à être protégé ou construit, mais en tout cas, ce n'est pas un état naturel.
Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. La philosophe, anthropologue, essayiste, psychanalyste, bref, Catherine Clément est notre Matryoshka aujourd'hui. Et ce qu'elle porte en tant que poupée russe, c'est son expérience et sa réflexion autour de la paix qui est un chemin. Et c'est tout en paradoxe que Catherine Clément, qui est parfois aride, parfois chaleureuse, parfois en colère, parfois passionnée, défend à merveille, un peu comme un combat. Dans son nouveau livre, L'Allemand de ma mère, paru aux éditions du Seuil, Catherine Clément titille intimement ce rapport à l'ennemi et à la paix. À l'époque, puisqu'elle est née en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, cet ennemi, c'est l'Allemand. Et au cours de sa vie, Catherine Clément, eh bien, tout cela s'entrecroise. Sa mère a connu un Allemand, donc a priori l'ennemi, qui était en réalité un anti-nazi et qui a sauvé la famille juive de Catherine Clément. Et puis, elle-même, Catherine Clément, a vécu toute sa vie avec son mari, qui était un juif allemand, naturalisé français. Donc tout son chemin à elle est celui de la réconciliation. Comment ? Eh bien, elle nous l'explique. La paix, c'est lent et progressif. Un peu comme la musique, au fond.
Il faut que je vous parle de Jean Kelevitch.
Oui.
Parce que Jean Kelevitch a été mon patron bien-aimé à la Sorbonne. Il m'a fait passer l'équivalent du master qui s'appelait le mémoire de maîtrise. Il m'a recruté à 22 ans et demi, je crois, pour aller à la Sorbonne. Et j'ai donc côtoyé pendant 15 ans cet homme qui était mon patron.
En quoi est-ce qu'il y a un peu de Jean Kelevitch en vous ?
Il m'a apporté la musique. Il avait une façon de parler de la musique, lui, et d'écrire sur la musique qui est restée inégalée.
Et c'était quoi ?
C'était l'écoulement du temps, c'était la mesure du temps, ça concernait le temps. Lévi-Strauss écrit des choses d'ailleurs très semblables dans les mythologiques. Ils ont des points de vue très très semblables sur la façon dont la musique, on dit pas annule le temps, mais stoppe le temps. Ou...
Suspend le temps.
Non, ce n'est pas une suspension, ça avance quand même.
D'accord.
En même temps. Non, non. C'est un processus un peu comparable à la fabrication de la paix au fond. C'est lent et c'est progressif.
Dites-moi plus.
Non,
parce que là, ça me fait vraiment. Je me dis waouh! Mais je veux encore des mots.
C'est que c'est comme la paix, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie à la fin, ça se termine par une harmonie, ou une disharmonie voulue, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui contente tout le monde, et chemin faisant, on est passé par des dissonances et des rapprochements à petits pas.
Et donc Jean Kelevitch, c'est ça qui vous apporte ?
Il y a
autre chose de lui en vous ?
L'amour de l'enseignement,
ouais.
Que j'ai pratiqué avec beaucoup de dévotion, que j'ai aimé beaucoup.
Et de son esprit ?
Non, j'étais embarquée dans Lévi-Strauss déjà avant de le connaître Jean Kelevitch, très tôt, à l'apparition de Tristan Tropique, donc en 1955. Hein. Et ça, d'un certain point de vue, ça exclut toute autre forme de système de pensée. Et il n'y avait pas de système de pensée chez Jean Kelevitch, donc Lévi-Strauss encadrait tout.
Et alors, Claude Lévi-Strauss, en quoi ça a été matriciel ?
Parce que la façon dont il parle de la structure et de la pensée sauvage, en Inde, ça se voit absolument partout. Quand ça se voyait, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ça, quand j'y étais pour la première fois, c'était en 1983, et quand j'y étais la dernière fois, c'était en 2000 et des poussières, ça n'avait pas tellement changé, ça se voit à l'œil nu, tout le temps, sans arrêt.
C'est-à-dire de quoi ?
Soit un arbre. Dans un arbre, il y a un coup de pinceau orange. Vous croyez que c'est un coup de pinceau orange ? Pas du tout, c'est une divinité. À quoi on voit que c'est une divinité ? Il y a deux petits points noirs dans le trait de peinture orange. Et il y a une fleur au bout du trait de peinture orange. C'est une divinité de l'arbre. Ils sont dindrolâtres. Les Indiens adorent les arbres. Les arbres sont des divinités. Pas tous, hein, mais quand ils sont des divinités, on le repère. On peut ne pas le voir aussi. Hein. C'est donc microscopique quand même. C'est dans un grand arbre, si vous avez un petit machin au pied, c'est pas énorme. Mais le divin, parce qu'il faut l'appeler comme ça, le divin est absolument partout. Il transforme absolument tout et quelquefois il infecte tout.
Et donc par rapport à les lunettes que Claude Lévi-Strauss vous a aidé à chausser ?
Eh bien oui, Lévi-Strauss dit qu'il y a, que la pensée sauvage est universelle. Donc nous avons tous la pensée sauvage en nous Et pour faire comprendre ce que c'est aux Occidentaux, il prend le modèle du bricolage. C'est-à-dire, tiens, il y a un petit bout de bois là. Je ne vais pas le jeter, je le garde. Ça servira bien à quelque chose. Ben voilà, c'est ça la pensée sauvage. Ça servira bien à quelque chose. En Inde, on découvre 3000 ans d'histoire des religions qui s'est fabriquée comme ça. Et bon, j'ai compris comme ça. Ça m'a beaucoup amusé. Ils ont 300 millions de dieux, c'est formidable.
Par rapport à ça va servir à quelque chose, en quoi en Inde ça a façonné ?
Comment on prouve que les dieux existent ? Eh bien, un jour, il a fait 45 degrés, pas 50, et toutes les statues du dieu Ganesh, que vous voyez ici, là, enfin, il est partout, là, qui est le dieu de la prospérité et le dieu éléphantaux, pas éléphant, éléphantaux, se sont mises à boire l'eau et le lait qu'elles avaient à leurs pieds. Miracle absolument, hein, donc on reversait de l'eau ou du lait par la trompe, les statues de Ganesh absorbaient du lait. Très bien, donc la divinité existe. Et puis il y a un zèbre qui se pointe à la télévision et qui est un savant et qui apporte une chaussure en bois. Et il met la chaussure en bois debout puis il lui fait boire du lait. Il dit ça c'est l'effet de la chaleur, le bois absorbe. Essayez de faire boire du lait à un Ganesh en pierre, ça ne marchera pas. Alors on a essayé et en effet ça ne marchait pas. Donc voilà, ça se passe en public. C'est aussi public que la Coupe du Monde chez nous. Hein. Ça se passe à la télé indienne. On discute pour savoir si, oui ou non, Ganesh est un dieu ou pas un dieu, selon qu'il boit du lait ou pas, selon qu'il est en bois ou en pierre. Un pays comme ça, c'est formidable. C'était formidable, en tout cas. Maintenant que c'est entièrement hindouisé, c'est devenu raciste. L'Inde est un pays raciste et intolérant envers les musulmans. Officiellement.
Je reviens sur le sujet.
Ça, vous ne l'enlevez pas, hein, sans ça, je vous tue.
Vous me tuez ? Ah, alors là, j'aimerais bien tester ça. Ça me donne trop envie de l'enlever. Par rapport à Claude Lévi-Strauss encore.
Oui.
Expliquez-moi en quoi son regard a façonné aussi, a permis de voir mieux ou de comprendre mieux l'évolution de nos civilisations. Et même aujourd'hui, en quoi il nous aide à voir quelque chose ?
Il était curieux de tout progrès scientifique, très inquiet sur le sort de l'humanité parce qu'il pensait, là il se trompait complètement, il pensait qu'on n'arriverait pas à nourrir l'humanité en voie
de
développement. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Parce qu'on peut nourrir 8 milliards de gens, on peut nourrir plus que ça encore, bon, on y arrivera, voilà.
Il y en a toujours qui s'inquiètent quand même sur ce sujet aujourd'hui, mais bon.
Il y en a, oui. Mais Lévi-Strauss n'était pas un penseur pessimiste, pas à ce point. Tandis que ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, ce sont des faux chrétiens qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Des gens qui cherchent à culpabiliser l'espèce humaine, qui est coupable de tout. Voilà. On fait tout mal, nous les hommes.
Ça, vous pensez que c'est la pensée chrétienne
qui, Oui, bien sûr que c'est la pensée chrétienne. Bruno Latour a écrit le plus beau livre sur la pensée chrétienne qu'on puisse imaginer. C'était un penseur comme ça. Ce livre s'appelle « Jubilé ». C'est magnifique, mais quand on lit Jubilé de Bruno Latour, qui est consacré à sa foi catholique, on comprend que là, dans son esprit, il ne peut pas rendre innocent l'espèce humaine. C'est pas possible.
C'est ça qui remonte aujourd'hui, parce que depuis qu'on est dans ce 21e siècle, qu'on est arrivé après l'an 2000, on a du mal à avoir un avenir.
Mes pauvres petits Bambi.
C'est la pensée chrétienne qui remonte.
Beaucoup la pensée chrétienne. Mais mes pauvres petits Bambi, vous êtes bien paresseux. Hein.
Bon, mes petits Bambi, on saisit bien à quel point Catherine Clément s'est nourrie tout au long de sa vie de rencontres. Il y a eu le musicologue et philosophe Vladimir Yankelevitch, elle vient d'en parler. Il y a eu aussi l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss, à qui elle a consacré son premier ouvrage qui s'appelait Claude Lévi-Strauss ou La structure et le malheur. Alors pour bien saisir un petit peu ce dont parle Claude Lévi-Strauss très rapidement dans La pensée sauvage, une idée qu'il formule en 1962 et qui a été une révolution en quelque sorte à l'époque, eh bien elle se représente en nous tous. C'est-à-dire que ce n'est pas la pensée des sauvages, mais la pensée à l'état sauvage, cette sorte de ressort intuitif qui nous aide à avoir une meilleure intelligence du monde. Et elle forme naturellement un système, une structure bien articulée avant qu'on ne soit cultivé ou éduqué. Et ce sujet de comment on se fait, ce qui nous est transmis, comment on se façonne, eh bien c'est un sujet qui passionne Catherine Clément depuis son plus jeune âge. Et je dirais même avant son plus jeune âge. D'ailleurs, dans son livre ici, Catherine Clément va même jusqu'à nous faire remonter en 1939, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle paraît au monde et qu'elle devient déjà un petit peu Catherine Clément.
Quelqu'un me prend, me tortille, me saisit par les jambes, tape un petit coup sur le dessous de mes pieds, aveuglé, ébloui, tout oublié ce que j'avais appris, recommencer. Ça, c'est juste un extrait de votre livre qui raconte votre mise au monde,
oui.
Votre arrivée.
Recommencer, ça me vient peut-être de la pensée de Lacan. Ça. Lacan insistait énormément sur le fait que le petit homme est le seul qui naît inachevé. Vous prenez n'importe quel quadrupède, en 20 minutes, il est sur ses quatre pattes. Ça chancelle un peu, mais c'est sur ses quatre pattes. Le petit homme, il faut 3-4 ans pour qu'il soit à peu près, qu'il commence à se terminer, et notamment neurologiquement. Donc c'est ce décalage immense entre le petit homme et les petits des autres espèces fait que nous sommes humains. Donc c'est ça, réapprendre à se former entièrement. Lacan, c'est le petit homme qui n'est pas terminé. C'est quand même fondamental. C'est le seul qui est à ce point insisté sur cet aspect-là des choses. Toute son œuvre repose sur ça.
S'il y a quelque chose qui vous reste de lui, c'est quoi ?
Des textes merveilleux qu'il a écrits à propos des psychiatres anglais. Ce sont des textes peu connus. C'est des textes de 1946-47. Ce qu'ont fait les psychiatres anglais pour intégrer dans l'armée des grands criminels. Comment ils ont fait pour intégrer dans l'armée des grands criminels ? Là, il y a des choses absolument formidables.
Et ça raconte quoi ?
Ça raconte comment les psychiatres anglais ont fait. Voilà. Petit à petit, par petits pas. Et Lacan était très admiratif de ces procédés de réintégration. Lacan, il a traversé, entre autres, la période de l'antipsychiatrie, qui a été un très grand mouvement, que j'ai adoré, que j'ai vénéré, et dont je regrette qu'il soit terminé quand même. Et l'antipsychiatrie, c'était on n'enferme pas les fous, on fait avec, et on se sert de ce qu'ils offrent.
Ça, c'est ce qui vous reste comme pensée
ou idée ? Entre autres. Mais Lacan, il me reste des bouts de ceci, des bouts de cela. Lévi-Strauss, c'est une méthode. Il me reste surtout une méthode. C'est-à-dire être attentif aux plus petits détails. Il y a du petit dans tout ça, vous voyez ?
Et oui, une sorte de pointillisme, en fait.
Oui, ou de tricot.
Et alors, au travers de ces figures-là, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, la psychanalyse, il y a un corps commun ?
Ben, oui, enfin moi je ne fais pas la différence entre aucune de ces disciplines, hein. Aucune de celles que vous avez nommées, aucune différence pour moi, c'est la même chose. C'est le même champ de travail.
C'est quoi ?
Ben, c'est vivre.
C'est penser ?
C'est un peu la même chose.
Vivre et penser ?
Oui, en tout
pas
cas.
Pas pour tout le monde, vous savez, Catherine Clément.
Je suis sûre du contraire.
C'est vrai ?
Oui, oui, certaine. En décembre dernier, j'ai pas mal étudié la pensée de la Coupe du Monde. C'est de la pensée, hein ?
Et alors, ça disait quoi ?
C'est une forme de pensée épique. C'est une forme médiévale de pensée. Duel, courtoisie, c'est un champ de bataille médiéval. Avec ses règles médiévales qu'on retrouve dans les épopées du Moyen-Âge. C'est tout à fait frappant, ça. Les commentateurs ont relevé tous les gestes de courtoisie entre adversaires. Bon. Il y a aussi ce qu'a dit Zelensky, qui est très médiéval. Zelensky lui est arrivé de dire à la télévision, pour les étrangers, hein, qu'il était prêt à un duel physique avec Poutine. Ça, c'est le modèle du tournoi, quand même. Hein. On est dans une période où les plus vieux machins remontent. Moi, ça, je trouve ça formidable. Si ça pouvait participer à la paix, ce serait très bien. Le tournoi, c'est un bon truc. Hein.
Pourquoi
Parce que ça tue une personne en tout.
Ça fait 50% des deux, quand même.
Non, ça tue une seule personne vivante au lieu d'en tuer des millions. C'est quand même beaucoup mieux.
Donc c'est pas un retour en arrière finalement, le retour au modèle médiéval ?
Ça n'a pas tellement de sens en arrière, en avant, dans ce système de pensée. Rien, c'est Valéry qui a écrit ça. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Ben, c'est faux. C'est faux. Il n'y a rien qui disparaît. Il y a toujours des machins très très vieux qui remontent. Il s'est gouré, Valéry.
Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Voilà le texte de Valéry, en effet, qu'il a publié à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi est-ce que Catherine Clément dit qu'il s'est gouré ? Eh bien parce que dans ce très joli texte, La crise de l'esprit, il explique comment, même lorsque la guerre se termine, eh bien subsistent certaines crises, celle du savoir, celle de la science, celle de l'esprit qui reste en danger. Mais ce que dit Catherine Clément, c'est qu'aujourd'hui, la preuve, eh bien, on est toujours là et qu'on se relève de tout. Alors, pour continuer à développer nos intelligences de demain, il faut continuer à s'inspirer de celles du passé. Il y a donc celle de Paul Valéry, mais il y a aussi celle de Henry Kissinger, qui est chère à Catherine Clément, parce que le grand stratège de la guerre froide cherche encore aujourd'hui, alors qu'il est très âgé, à construire un processus de paix dans le contexte actuel. Et ça, Catherine Clément, eh bien, ça l'inspire toujours.
Je voudrais transmettre la paix, ou la fin de la guerre, ou le fait que même dans la guerre, il y a des processus de paix. On peut sauver sa peau. La peau de la paix.
Comment on transmet la paix ?
D'abord en affirmant qu'elle existe et en dépiautant ses procédés.
Alors, dites-nous un petit peu, penser la paix, pour vous, ça passe par quel chemin ?
De tout petits chemins, des chemins de traverse. C'est des petits pas de rien du tout. Ça procède par millimètre carré, à peu près. C'est tout petit. C'est tout petit, c'est pas des grandes déclarations.
Alors, qu'est-ce que vous dites, par exemple, à vos enfants, à vos petits-enfants, sur ces petits millimètres-là ?
Qu'il faut pouvoir penser la paix en permanence, il faut penser que la paix existe, il faut penser qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle n'est pas spontanée, que l'état de paix n'est pas naturel. Voilà. Donc il demande à être protégé, ou construit, ou atteint, ou fabriqué, mais en tout cas, ce n'est pas un état naturel. La preuve.
Ce n'est pas un état naturel. Vous qui avez vécu dans différents pays, qui avez étudié différentes cultures, différentes civilisations.
Et qui suis né dans la guerre.
Et qui êtes né dans la guerre. La paix n'est pas une évidence.
Je l'ai cru. J'ai cru qu'elle était... Enfin, je l'ai cru. Oui et non. Parce que dans chaque pays où j'ai été, sauf l'Autriche où il n'y avait pas de conflit de frontières, mais en Inde, il y a la guerre du Cachemire, qui est une guerre endémique qui continue quand même. Et au Sénégal, il y avait la guérilla de Casamance. Et mon homme qui chuchote à l'oreille des tyrans n'a pas manqué de m'emmener dans les guérillas de Casamance et il est arrivé à faire la paix.
Non, juste pour expliquer, son homme qui chuchote à l'oreille des tyrans, cet homme-là, c'était son mari, avec qui elle a partagé beaucoup d'expériences, à la fois sur le terrain de la guerre et à la fois sur le terrain de la paix. On l'écoute.
J'ai passé 30 ans de ma vie avec un juif allemand naturalisé français. Et voilà, on est passé les 30 dernières années de sa vie à lui, ensemble. Les juifs allemands, il y en a beaucoup dans la culture française. Hein. Celui-ci s'appelait André Lévin. Il était né à Francfort-sur-le-Main. Il a appris le français en un mois, forcé, contraint et forcé, après être arrivé en France avec ses parents à 6 ans. Et il est devenu ambassadeur de France en passant par l'ENA, parce que justement, il voulait réconcilier l'Allemagne et la France. Ça, c'était son grand but dans la vie. Et quand je lui ai demandé souvent, on l'appelait l'homme qui murmure à l'oreille des tyrans, tellement il affrontait les pires monstres. Et tu lui demandais, est-ce que tu auras affronté Hitler ? Bien entendu, j'aurais affronté Hitler.
Il y a des ressorts de paix ?
Oui, l'hospitalité, la désobéissance. Il expliquait très bien ce qu'il faisait dans le sens de la paix et qui était une désobéissance absolue aux règles de l'État. Par exemple, nous avons hébergé chez nous des guérilleros casamançais, qui étaient protestants et qui lisaient la Bible tous les soirs, on parlait avec eux, on dînait avec eux, c'était strictement interdit. Mais c'est ça qui a permis de fabriquer la paix. C'est un processus. Oui, l'hospitalité, voilà. La parole, la parlotte.
Donc là, votre livre, vous diriez que c'est un livre de paix ?
Ah, je l'espère.
C'est son intention ?
Oui, c'est son intention. Je ne sais pas ce que ça cache, mais ça, l'intention y est, oui.
Et alors, l'allemand de votre mère ? Il réconciliait quoi ?
Il réconciliait son statut d'officier de la Wehrmacht, de médecin officier de la Wehrmacht, et son être allemand. Il était anti-nazi. Ils ont été nombreux à être anti-nazi comme ça. Et là, on n'en a pas encore fait le tour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des justes allemands à découvrir. Celui-là en est un. Et c'est ma mère qui me l'a raconté des dizaines de fois, l'histoire de cet officier de la Wehrmacht qui l'a sauvé nombre de fois, souvent quand même, pas une fois par hasard. Mais avec détermination et souvent.
Le fait de raconter cette histoire aujourd'hui, d'une certaine façon, quel est son espace-temps ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a sa place, cette histoire, aujourd'hui ? Est-ce que ça résonne en quelque chose ?
C'est la réconciliation avec l'Allemagne, donc la paix, donc ce qui est en train de se briser maintenant, pour dire les choses brutalement.
Donc, c'est-à-dire
peut-être que tout simplement, j'ai écrit ce livre parce qu'on va avoir une guerre chez nous. Je crains que ça soit ça la réponse. J'espère que non.
Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on entend dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui, qui nous parle encore ?
Oh, très simplement, la violation des lois internationales, l'annexion d'un territoire par la force militaire, qui a été repoussée jusqu'aux extrêmes limites par les Européens en 1939. Et là, on sent quand même très bien que la matrice de Poutine, c'est ça. C'est la même que celle de Hitler. La cible n'est pas les Juifs, la cible ce sont les Ukrainiens, à mon avis c'est les Européens. Et à mon avis, plus précisément les homosexuels. Je pense que la vraie cible de Poutine, ce sont les homosexuels.
C'est-à-dire, c'est un modèle de civilisation différent en
face. Civilisation décadente, il a réagi publiquement à l'histoire des transgenres. C'est un signal énorme. Et je pense que ce qu'il veut, c'est la peau de cette civilisation tolérante.
Expliquez-moi encore davantage la similitude de matrice que vous voyez entre les deux figures.
On est incapable scientifiquement de mesurer le degré de folie des dictateurs. Mais pour être dictateur, il faut être un peu fou quand même. Et en général, ce sont des incultes. Moi, je l'ai rencontré, Poutine, figurez-vous. Il y a très 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 longtemps, au Tyrol, où il était avec son patron, le maire de Leningrad à l'époque. Mais c'était du type qui porte la valise du patron, quoi, en gros. Hein. C'est dire qu'il ne fait aucun effet, il est rien. Et Hitler, c'était un petit bonhomme de rien. C'est généralement des de rien qui se vengent sur toute l'humanité. Hein.
Ce qui marque et ce qui est très intéressant dans ce que communique Catherine Clément, c'est à la fois cette façon d'embrasser toute l'humanité et dans le même temps de se revendiquer comme surtout juive. De fait, elle était juive par sa mère, ses grands-parents étaient originaires de Russie, ils ont été déportés en 1944 à Auschwitz et n'en sont jamais revenus. Mais son père était, lui, catholique, et tout au long de sa vie, Catherine Clément a traversé toutes les cultures, s'est immergée dans tant de peuples, dans tant d'histoires. Voilà sa perception.
On a été les plus grandes victimes de l'humanité, il n'y a pas de doute, avec des procédés inouïs, jamais inventés, inédits. On voit bien dans mon livre, je l'espère en tout cas, comment fonctionne la pensée nazie. J'ai fait tout pour qu'on voit ce que c'était que la pensée nazie. On n'est pas sorti de cette immolation-là. Donc c'est très compliqué.
Aujourd'hui, vous pouvez vous définir ?
Non. En tout cas, mes deux enfants se sentent juifs. Ça, je peux vous le dire. Mes petits-enfants, je ne sais pas. Il y en a un, oui, l'autre, je suis pas sûre.
Mais c'est quand même un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on se sent plus juif ? Quand on a les deux, est-ce que c'est justement lié à la question de la persécution, de la souffrance et de la mémoire ?
Oui, je pense. Oui, tout simplement. Oui, c'est que la catastrophe pèse sur une branche et pas sur l'autre. Donc ça fait une trace plus importante et une mémoire quantitativement plus importante. En nombre de morts.
Vous savez, dans Matrioshka, il y a toujours cette question, à la fin de l'entretien, qui est... Une fois qu'on a fait le tour un petit peu, ben le tour jamais, mais de ce qu'on a reçu, de ce qui nous a fait, c'est de voir ce qu'on a à donner, ce qu'on a à transmettre. Et je voudrais vous poser cette question pour vous, Catherine Clément, avec tout ce que vous avez vécu, la richesse de vos racines, mais aussi vos voyages, vos rencontres, vos pensées, tout ce qui vous fait. Qu'est-ce que vous pensez important d'avoir à transmettre à nos enfants ?
Comment faire la paix ? C'est tout. Comment vivre en paix ? Comment arriver à fabriquer de la paix quand il y a de la guerre ?
Il y a des mots que vous posez là-dessus quand vous parlez aux plus jeunes ?
Les plus jeunes, je les abonne au grand continent, à la revue Le Grand Continent. Parce que la revue du Grand Continent est une revue de géopolitique et que deux ou trois fois par semaine, on reçoit une livraison de « il y a la guerre ici, il y a la guerre là, comment on fait là ?» Bon, voilà.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre le monde pour pouvoir...
Ah oui ! Non, il faut surtout savoir. Il faut savoir énormément de choses pour comprendre le monde. Énormément de choses.
Donc les clés pour la paix, je reviens parce que je radote dans
mes questions. Les petits pas.
Les petits pas et la compréhension de l'autre un peu.
Mais la compréhension des autres, elle devrait être universelle. Plus on en sait sur les autres et mieux on se porte quand même. D'abord parce que c'est intéressant, et ensuite parce qu'on comprend mieux. Et puis qu'on peut poser des limites.
Merci Catherine Clément.
Merci à vous.
Eh bien, j'ai une grande tendresse pour cet échange avec Catherine Clément, que j'ai trouvé d'une vivacité, d'une richesse assez agréable. Merci Catherine Clément de nous avoir transmis toutes ces bribes et ces fulgurances de pensée, parfois de façon un peu sèche, mais toujours très chaleureuse. Si vous avez aimé ce Matrioshka, n'hésitez pas à le partager et puis n'hésitez pas aussi à nous communiquer les Matrioshkas que vous voudriez me voir interviewer. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de notre collection. Salut! Matrioshka.